Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Bonjour et bienvenue dans ce journal du 8 décembre 2015, les titres. Deux semaines après l'attaque terroriste contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako, le groupe djihadiste Al-Mourabitoun a diffusé la photo des deux présumés assaillants. Cette publication vient appuyer la revendication du groupe terroriste de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. La corruption reste une réalité au Mali. Transparency International vient de rendre public le rapport de son sondage sur la corruption en Afrique et au Mali. Pour certains économistes, ce rapport est inquiétant et démontre l'échec des politiques mises en œuvre pour lutter contre la corruption au Mali. La rencontre entre la plateforme et la CMA a pris fin ce week-end à Ain Khalil. À l'issue de ces concertations, les deux parties ont décidé de démilitariser la zone, une décision considérée comme un pas important vers la réconciliation. Une cinquantaine d'acteurs du secteur minier ont approuvé hier le rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en 2013. Ce document servira de base à la prochaine mise en œuvre de l'initiative pour la transparence du secteur minier. Fatmata Togola pour la présentation. Deux semaines après l'attaque terroriste qui a visé l'hôtel Radisson Blu de Bamako, le groupe djihadiste de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, Al-Mourabitoun, a diffusé la photo des deux assaillants présumés de l'attaque terroriste perpétrée contre l'hôtel de Bamako. À travers cette diffusion, le groupe veut certainement prouver qu'il est le vrai commanditeur de l'attentat qui a fait 21 victimes. Sekou Gadjougo pour le compte-rendu.
Sur l'image, deux jeunes garçons en treillis militaire, armes en main, se tiennent devant un véhicule sur lequel est accroché un drapeau noir avec des écritures en arabe. Une légende écrite en arabe accompagne la photo. L'un des deux adolescents est reconnaissable sur les images des corps sans vie de deux hommes tués lors de l'intervention des forces maliennes. Ces photos avaient été diffusées par la télévision publique ORTM au lendemain de l'attaque. Deux groupes terroristes, Al-Mourabitoun de l'Algérien Belmokhtar et le Front de libération du Massina du prédicateur radical Amadou Koufa, avaient revendiqué l'attaque perpétrée contre l'hôtel Radisson Blu. Deux semaines après, le groupe de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar a diffusé la photo des deux terroristes présumés sans donner plus de détails sur leur identité. Toutefois, la diffusion de ces images pourrait appuyer la revendication du groupe terroriste allié d'Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Les forces de sécurité maliennes ont arrêté la semaine dernière deux individus à Nampala. Selon des sources sécuritaires, il s'agit de présumés terroristes qui ont été transférés pour être entendus à la gendarmerie nationale de Bamako. Selon plusieurs sources concordantes, un autre suspect a été aussi interpellé dans le village de Gambourou, dans la commune de Doukabougou. Réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook et le compte Twitter du studio Tamani.
Tamani.
Transparency International vient de rendre public le rapport de son sondage sur la corruption en Afrique et au Mali. Selon ce document, 30% des personnes interrogées au Mali affirment avoir versé des pots de vin aux agents publics et en l'occurrence aux policiers. 56% des personnes interrogées pensent que le gouvernement ne lutte pas suffisamment contre le phénomène. Les explications avec Issa Fakaba Sissoko.
Les chiffres ont été révélés par le dernier rapport People and Corruption Africa Survey 2015. Selon le rapport, 75 millions d'Africains déclarent avoir versé des pots de vin au cours de l'année dernière. Au Mali, la police est présentée comme le secteur le plus corrompu. Les membres du gouvernement arrivent en troisième position, suivis à la cinquième place par les juges et les magistrats. Les parlementaires, eux, arrivent en sixième position, alors que la présidence de la République se classe au huitième rang. Les chefferies traditionnelles et les leaders religieux ne sont pas épargnés. Et le rapport de constater que les populations restent les principales victimes. Au Mali, 58% des personnes affirment que la corruption a augmenté au cours des 12 derniers mois. Et 56% pensent que le gouvernement ne lutte pas suffisamment contre le phénomène, et révèle le rapport de Transparency International. Toujours au Mali, environ 30% des personnes interrogées disent avoir versé des pots de vin aux agents publics et en l'occurrence aux policiers. Au niveau des écoles et hôpitaux, entre 31 et 41% de personnes ont eu recours à ces pratiques. Entre 18 et 30% des personnes ont pratiqué la corruption pour obtenir des documents administratifs, tels les cartes d'identité ou permis de conduire.
Pour un certain nombre d'économistes, ce rapport est inquiétant et démontre l'échec des politiques mises en œuvre pour lutter contre la corruption au Mali. Selon eux, il faut activer les mécanismes de répression contre la corruption pour témoigner d'une réelle volonté publique dans la lutte contre ces pratiques. Étienne Fakaba Sissoko est économiste chargé de cours à l'Université de Bamako. Il a été rejoint par Barke Sissé.
Lorsque vous prenez les agents de la police qui viennent en tête de ce classement, sont ceux-là qui sont responsables de la petite corruption. Les membres du gouvernement arrivent en troisième position. Et cela montre bien évidemment que les politiques qui ont été mises en place, notamment la loi contre l'enrichissement illicite qui a été votée par l'Assemblée nationale, ne peut pas être aujourd'hui appliquée. Dans le mécanisme de répression, ce sont les magistrats qui doivent jouer un rôle primordial. Et les juges également sont cités dans ce rapport, ce qui montre que les acteurs qui doivent intervenir dans la lutte contre la corruption sont ceux-là qui sont responsables de cette situation de corruption. Donc aujourd'hui, le citoyen lambda se pose la question de savoir si véritablement on a une politique cohérente de lutte contre la corruption, si secondo, les acteurs qui sont en charge de la lutte contre la corruption sont honnêtes dans la mise en œuvre de cette politique, et troisièmement, si la volonté politique qui doit être mise en avant dans cette lutte de corruption est vraiment affichée par nos autorités.
Un document de préaccord a été remis au président de la conférence sur le climat. Ce document jugé insatisfaisant par la délégation malienne présente à la COP21. Cependant, elle affirme que les discussions ont permis certaines évolutions. Selon le directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement du Mali, le côté financier est réglé. Mais le gros problème se trouve au niveau du caractère juridique de l'accord. Aboubacar Diabaté, directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement du Mali, au micro de notre envoyé spécial à la COP21, Mohamedou Touré.
En réalité, le gros problème, c'est la discussion des points qui est en cours en ce moment. Bon, pour le côté financement, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de difficultés majeures. La tendance est de dire on met 50% à l'atténuation et 50% à l'adaptation. Bon, ça satisfait pour tout le monde pour l'instant. Tout le monde est également d'accord sur le renforcement de capacités, donc notamment des pays du Sud. Alors, tout le monde est également d'accord sur le transfert des technologies. Ces points n'ont pas posé beaucoup de problèmes. Je crois que c'est vraiment le caractère juridique de la chose qui pose vraiment problème. Parce que les pays ne veulent pas se sentir obligés de respecter leurs propres engagements. Or, déjà, on estime que les engagements des pays actuellement ne suffira pas à stabiliser la réduction, déjà à 2 degrés. Encore que les pays en voie de développement veulent même pas 2 degrés de stabilisation, même 1,5 degrés de stabilisation. Donc, on leur a demandé de faire un peu plus d'efforts parce que, évidemment, les 2 degrés, pour les atteindre, il faut que la contribution soit beaucoup plus ambitieuse qu'elle ne l'est actuellement.
La localité d'Inhalil dans la zone d'Anéfis va être démilitarisée. Les groupes de la CIMA et de la plateforme ont convenu d'être à équidistance de cette zone de commerce. C'est la décision prise lors de la rencontre qui s'est déroulée ce week-end entre la plateforme et la CIMA. La responsable des groupes considère cette mesure comme un pas important dans la réconciliation. Fahd Ag Al-Mahmoud est membre de la plateforme. Il a été joint par Sekou Gadjigou.
Que le processus d'Anéfis avait prévu une rencontre à propos d'Inhalil et éventuellement une démilitarisation de la localité. C'est ce qui a été fait avant-hier. Inhalil est démilitarisé. Les groupes plateformes et CEMA seront à équidistance d'Inhalil et sera totalement laissé au commerce tel qu'il a été créé. C'est une zone qui a été créée par le commerce. Les marchandises venant de l'Algérie et les bétails partant du Mali. Chaque groupe assure la sécurité d'un certain nombre de points, de part et d'autre d'Inhalil, c'est-à-dire la localité la sécurisée de l'extérieur. Il y aura un contrôle sécuritaire en dehors de la localité, mais à l'intérieur, il n'y a pas de police appartenant à tel ou tel groupe armé. Normalement, chacun peut vaquer à ses occupations quotidiennes.
Une cinquantaine d'acteurs du secteur minier ont approuvé hier le rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives 2013. Ce document servira de base à la prochaine mise en œuvre de l'initiative pour la transparence du secteur minier. Robert Diarra est le chef de cabinet du ministère des Mines. Il est au micro de Mohamed Salaha.
C'est l'atelier qui va valider le rapport 2013 de l'ITIER. Vous savez que l'or quand même est très très important dans notre économie et par rapport à la communauté internationale pour beaucoup plus de transparence dans ce secteur. Donc chaque 2 mois, les États doivent produire un rapport par rapport à l'ITIER. Donc c'est le rapport 2013 qui sera examiné pendant cet atelier. On veut que ça soit examiné sans complaisance, pour qu'ils aillent en profondeur. S'il y a des corrections à apporter, qu'ils apportent ces corrections. On veut que ce rapport réponde aux exigences des normes internationales. C'est vraiment important puisque ça réunit les acteurs du secteur. Mais ce qui est important aussi, c'est que ce présent atelier permettra aussi de discuter et d'examiner le programme d'activité de l'année 2016.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
À présent, les échos de nos régions. 72 enseignants ont bénéficié d'une formation de 2 jours à Gao. Cette initiative des différents syndicats des enseignants de la région vise à renforcer la connaissance des participants sur la décentralisation dans la gestion scolaire. Promouvoir la planification familiale auprès des femmes vivant avec le VIH-SIDA, c'est l'objectif d'une session de formation sur la santé de la reproduction qui a débuté hier à Koutiala. Une vingtaine de leaders communautaires prennent part à cet atelier qui va durer 5 jours. La rencontre est organisée par le Centre de référence Kennedy Solidarité et financée par la Fondation France. Le projet Résilience des enfants en mobilité a été lancé hier dans la région de Tombouctou. Exécuté par Enda Mali, ce projet couvre uniquement la ville de Tombouctou pour 12 mois. Il a pour but de poser la question de la protection des enfants avec les acteurs communautaires institutionnels, les médias et la société civile, y compris les groupes d'enfants et de jeunes. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie dans un instant, le magazine.